On va reprendre là où on en était la dernière fois. Donc, on avait parlé d'accueillir. Accueillez-vous les uns les autres. Alors, évidemment, en ce moment, c'est un petit peu déplacé puisqu'on n'a plus le droit de s'accueillir. Mais bon, ça reviendra un jour. Et en attendant, on va rappeler simplement quelques versets sur le fait d'accueillir au niveau de l'hospitalité. La semaine dernière, on a parlé de toutes sortes d'accueils différents. Là, maintenant, de l'hospitalité, on trouve déjà des versets dans l'Ancien Testament. Et on va prendre il y a Lévitique 19, 34, par exemple, pour l'accueil des immigrés au milieu du peuple d'Israël. D'ailleurs, en passant, c'est très important. Parce que très souvent, on entend des gens qui n'ont jamais lu la Bible dire que oui, mais le peuple d'Israël, il était xénophobe, il supportait pas les étrangers, etc. On entend souvent ça et c'est pas vrai, puisque dans le Lévitique, justement, Lévitique 19, 34, dans la loi de Moïse, c'était clair qu'on devait accueillir l'étranger qui était au milieu du peuple. Et ça, c'est quand même très important. Quand on lit la Bible, il faut lire toute la Bible. Et les recommandations de la loi juive n'étaient pas du tout hostiles à l'immigré et à l'étranger. Dans le Nouveau Testament, on a ce verset, Romains 12, verset 13, qui dit ceci, « Cherchez à exercer l'hospitalité ». Et même le verbe est plus fort, certains l'ont traduit par « poursuivez ». Hébreux 13, 1 à 2 dit « N'oubliez pas l'hospitalité ». Il en est qui, en l'exerçant, ont, à leur insu, logé des anges. Alors, évidemment, vous allez penser à Abraham ou Gédéon ou les parents de Samson, par exemple, dans l'Ancien Testament. Mais je crois que, en exerçant l'hospitalité, c'est un fait qu'on peut recevoir chez soi des gens qui sont réellement en bénédiction. Et si on prend le mot ange à son sens premier, c'est-à-dire messager de Dieu, envoyé de Dieu, eh bien oui, un jour ou l'autre, en recevant des gens chez nous, on a ce privilège de recevoir des envoyés de Dieu. Et comme notre Église a aussi l'habitude de beaucoup recevoir de prédicateurs de toute nationalité, et il y a des années, évidemment cette année on n'en a pas reçu à cause du confinement, mais en général on en a plusieurs par an, et je me souviens de plusieurs de ces prédicateurs qui ont été accueillis chez nous et qui ont été réellement en bénédiction. Et je pense qu'Olivier s'en souviendra aussi de Ken et Ginny particulièrement, qui ont été une grande bénédiction. Et parfois l'hospitalité, ça demande un petit effort, et je me souviens que on était à Grenoble pour installer Samuel dans son logement d'étudiant, quand on a reçu un coup de fil de Marc Brisebois qui disait « Voilà, je viens, je crois, la semaine prochaine, avec un couple. » J'étais même pas chez moi, comment préparer tout. On allait rentrer juste, en fait, pour les recevoir. Et bien, ça s'est très bien passé. Et ça a été une réelle bénédiction pour nous. Mais c'est pour ça aussi que 1 Pierre 4, 8, 9 dit aussi « Exercer l'hospitalité les uns envers les autres ». Mais il y a trois versets qui sont un petit peu amusants. Et Romains 16 dit « D'exercer l'hospitalité d'une manière digne des chrétiens, digne des saints, des gens mis à part pour Dieu ». Philippiens 2, 29 dit « Avec une joie entière ». Et là, Pierre est encore plus drôle, il dit 1 Pierre 4, 9 « Sans maugré, sans murmure ». Exercer l'hospitalité, autrement dit, dans notre langage, sans rouspéter. Je dois avouer que, surtout dans les périodes où presque chaque week-end on avait un visiteur, j'ai rouspété par moment parce que il fallait vite changer la chambre, tout préparer, faire les courses pour le week-end. Voilà. Et puis, on rouspète un petit peu. Je me souviens, quand on a eu ce coup de fil de Marc Brisebois aussi, je lui demandais à Grenoble comment je vais préparer pour 3 personnes, 2 chambres, etc. J'avais encore Florence et Olivier à la maison, donc c'était pas évident. Et donc, on est parfois dans le murmure, hein, pour être poli, dans la rouspétance. Et la parole de Dieu nous demande d'accueillir sans murmure. Waouh, c'est tout un programme. Et d'un autre sens, c'est pas que je veux justifier les gens qui rouspètent, hein, j'en fais partie, mais Ces murmures sont souvent dus à des exigences culturelles. Pourquoi ? J'en ai déjà parlé, mais je le redis, vous savez que je me répète. Les exigences culturelles françaises, particulièrement, sont énormes. J'ai écouté récemment une vidéo d'une Française aux États-Unis, et c'était un peu angoissant, assez déplaisant quand même, parce qu'elle expliquait aux Américains comment on doit se comporter correctement en France, et comment eux, ils devraient en faire autant, déjà. Et elle disait entre autres, quand vous recevez quelqu'un chez vous, il faut que tout soit impeccable. Il faut que tous vos vitres soient nettes, il faut pas qu'il y ait un grain de poussière, il faut que ceci, il faut pas qu'il y ait de choses qui traînent, surtout pas les jouets des enfants, enfin, etc., etc. Et c'était carrément angoissant, quoi. Enfin, je me mets à la place, oui, quand j'avais les enfants petits, etc., et je recevais aussi pas mal de monde. C'est pas évident d'avoir tout impeccable quand vous avez des invités. Et le résultat, c'est que forcément, la maîtresse de maison, toute chrétienne qu'elle est, va être stressée. Et elle va rouspéter, parce que quand on est stressé, ben on rouspète. Et on n'a pas envie d'accueillir dans ces conditions-là. Si le niveau qui est demandé pour l'hospitalité, c'est la perfection, c'est l'hôtel 4-5 étoiles, eh bien forcément, on va être stressé. Et je me souviens, à l'époque, j'avais 25 ans, on recevait souvent un pasteur indien qui s'appelait Joseph Daniel, qui est décédé il n'y a pas très longtemps. Et on avait été invité, je l'avais traduit dans une église de Normandie, et on était invité à manger, et lui je crois qu'il dormait aussi chez ces gens, et après la série de réunions, il m'avait dit, mais vous avez remarqué comment on a été accueillis dans cette famille pastorale? Je fais oui. Vous avez vu comment cette femme, elle avait une maison vraiment ordonnée, et puis le repas digne d'un grand restaurant, c'était... Mais comment elle a pu faire tout ça? Et elle était, je crois même qu'elle était école du dimanche ce jour-là, et elle était présente au culte, à l'heure, etc. Il était époustouflé. Et comme lui, il avait des grandes églises en Inde, c'était plusieurs milliers de gens, il m'a dit, mais comment elles font, les femmes de pasteurs français? Il m'a dit, mais il y a une exigence là derrière qui me semble bien trop forte. Et j'ai souvent tourné ça dans ma tête. Pourquoi souvent les gens n'exercent pas l'hospitalité? Parce que on met le niveau tellement haut, on exige tellement de soi-même et des autres aussi quand on est en visite. Et les critiques qu'on risque d'avoir ferment la porte des cœurs et des maisons. Et je pense qu'il faut y être attentif. Peut-être déjà ne pas critiquer, ça c'est important, si on est invité dans une maison qui est un peu en désordre. Et si jamais c'est parce qu'il y a un problème de maladie ou de surmenage ou de dépression, offrir son aide, mais pas critiquer. Et je pense que c'est important, si on veut qu'il y ait plus d'hospitalité dans nos églises, qu'il y ait beaucoup moins de critiques et de jugements sur la façon dont on est accueilli. Et je pense que les gens seront beaucoup plus à l'aise des deux côtés. Et si on baisse un tout petit peu, là je pense que dans ce domaine on peut baisser la barre, parce que c'est demander beaucoup trop, beaucoup trop. Et c'est ça aussi qui crée les murmures, parce que on sent qu'on est tellement stressé à l'idée qu'il faut que tout soit parfait. Donc voilà, exercer l'hospitalité, oui, mais exercer aussi la bienveillance des deux côtés. Alors aujourd'hui, le thème, c'était le nouveau thème, « Exhortez-vous les uns les autres », Colossiens 3,16. Et là, je réfléchissais un petit peu... J'essaie de me mettre à la place de ceux qui écoutent, et je me suis dit, oh là là, ça va sembler rudement rudement dans les hautes sphères, extrêmement spirituel, exhortez-vous les uns les autres, autrement dit, chaque fois qu'on se voit, il faut avoir des paroles profondes, etc., etc. Et non, c'est pas du tout ça. Et justement, je crois que c'est important de regarder ce que veulent dire les apôtres, parce qu'il y en a plusieurs qui en ont parlé, quand ils disent « exhortez-vous les uns les autres ». C'est important. 100 fois dans le Nouveau Testament. Aïe, ça fait beaucoup, hein. Vous savez, quand les gens se répètent, c'est parce que souvent c'est important. Et quand la Bible se répète, c'est parce que c'est très important. 100 fois dans le Nouveau Testament, vous avez le verbe « exhorter ». Plus de 30 fois le nom « exhortation ». Alors, qu'est-ce qui veut dire exactement ce mot? Est-ce que c'est partir dans des grands discours théologiques? Ou bien, est-ce que c'est plus simple que ça? Le mot grec qu'on a traduit par exhorter signifie appeler à côté de soi. Et celui qui répond à cet appel, vous allez voir, c'est intéressant, on l'appelle en grec le parakletos, c'est-à-dire l'avocat. Et c'est le nom que Jésus utilise pour le Saint-Esprit. Vous trouvez ça dans Jean 14, 16, 26, Jean 15, 26 et Jean 16, 7. Dans certaines traductions, on va l'appeler le consolateur, donc le Saint-Esprit, ou le paraclet, justement. On a francisé le mot grec. Jésus est aussi ce paraclétos, cet avocat auprès du Père. On trouve ça dans l'épître de Jean, la première, chapitre 2, verset 1. Alors, exhorter les autres, c'est être pour eux ce que le Saint-Esprit est pour nous. Voilà, bien sûr, on ne remplace pas le Saint-Esprit, mais on prend modèle. C'est-à-dire consolateur, défenseur, avocat, celui qui aide, qui encourage et qui relève. Alors, c'est aussi un mot, et là, c'est important, qui est utilisé à propos des généraux grecs. Vous savez que les Grecs avaient une armée très forte, même s'ils ont fini par être défaits par les Romains, mais ils avaient une grande armée, et les généraux grecs exhortaient les soldats avant la bataille. Et qu'est-ce qu'ils leur disaient? Eh bien, ils les encourageaient en leur disant qu'ils pouvaient le faire, que voilà, ils avaient tout ce qu'il fallait. Et en plus, qu'il fallait qu'ils fassent absolument tout ce qui était dans leur possible pour remporter la victoire. Vous allez y arriver, vous mettez vraiment le paquet et vous allez avoir la victoire. Donc, exhorter, c'est parler à quelqu'un pour l'encourager, le consoler, le réconforter, mais aussi le conseiller et lui conseiller une certaine ligne de conduite en vue de la victoire. Donc, c'est pas seulement encourager, consoler, mais c'est aussi conseiller une certaine ligne de conduite pour obtenir la victoire. Alors, le mieux pour exhorter, c'est de revenir au modèle qui est donné dans les épîtres. Vous constaterez qu'il y a des chapitres entiers qui sont considérés comme des paroles d'exhortation. Hébreux 13, par exemple, 1 Pierre 5, on en parle aussi dans le verset 3 de Jude. La partie pratique de plusieurs épîtres commence par ces mots, et là, c'est important. Je vous exhorte donc, frères, etc. Et vous trouvez ça dans Romains 12, Éphésiens 4, 2 Corinthiens 10, 1 Timothée 2, 1 Pierre 2 et 5. Enfin, c'est vraiment « je vous exhorte donc ». C'est une phrase qu'on a tous dans les oreilles quand on a été quelques années dans une église. « Je vous exhorte donc, frères ». Mais c'est pas une formule. Et pour une fois, j'allais dire, mais ce mot « donc », il a énormément de sens. « Je vous exhorte donc ». Pourquoi donc ? Eh bien, parce que l'apôtre s'appuie sur ce qu'il vient de dire. Et qu'est-ce qu'il vient de dire dans ces contextes-là ? Eh bien, il a rappelé ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ. Alors, vous pouvez voir ça dans Romains 12, Éphésiens 4. Donc, quand il dit « je vous exhorte donc », c'est qu'avant, il a pris du temps pour dire qu'est-ce que Jésus a fait pour vous. Et on l'a chanté merveilleusement ce matin. En fait, il peut nous encourager et nous appeler à vivre une vie digne de l'Évangile, non pas parce que l'apôtre, il est meilleur que nous, non pas parce qu'il fait partie des grands apôtres du Nouveau Testament, non pas parce qu'il avait le droit, quelque part, de nous instruire et l'autorité supérieure, mais s'il nous dit « je vous exhorte donc », c'est à cause de l'œuvre de Dieu. Le donc, c'est à ça qu'il fait appel. À cause de l'œuvre de Dieu pour nous et en nous. Et ça, c'est important. Quand nous, on va exhorter quelqu'un, ce n'est pas parce qu'on est au-dessus, c'est pas parce qu'on est autrement plus spie que lui, ou etc. C'est à cause de l'œuvre de Jésus. L'exhortation, pour nous chrétiens, et entre parenthèses, rappelez-vous, c'est exhortez-vous les uns les autres. C'est pas réservé à des pasteurs, à des ministères, à des responsables. Exhortez-vous les uns les autres. Alors, c'est vrai que parfois, quand quelqu'un va citer des versets bibliques, on peut se sentir un peu, oh là là, il cherche à m'en rapprendre. Mais remettons ça dans le contexte de « je vous exhorte donc ». Donc, parce que Jésus a fait quelque chose pour nous. Donc, l'exhortation pour nous chrétiens n'a rien à voir avec un rappel moral. Exhorter quelqu'un, ce n'est pas lui faire la morale, en aucun cas. Et si on ressent ça, il faut revoir le problème. En aucun cas, exhorter, c'est faire la morale. Ce n'est pas dire tu dois, tu devrais, t'aurais dû. Parce qu'en exhortant, et ça c'est important de s'en rappeler, on ne fait pas appel à la volonté naturelle de la personne. Ah bon ? Eh ben non. Quand j'exhorte quelqu'un, je ne fais pas appel à sa volonté. Ouais, tu fais un effort, tu réunis ton énergie et tu... Non, non. On s'appuie sur ce que Jésus a fait pour cette personne, comme on l'a chanté ce matin. On s'appuie sur l'appel que Jésus nous a adressé, l'appel. On en a beaucoup parlé hein, dans les messages d'André avec ce petit appel là qui était en haut du triangle, parce que c'est le plus important. Ça dépend, tout dans notre vie dépend de notre appel. Est-ce qu'on y répond, est-ce qu'on n'y répond pas, on en veut, on n'en veut pas, on y obéit ou on n'y obéit pas, mais tout est lié à cet appel. Quel a été le plan de Dieu pour moi? Quel est son appel sur ma vie et qu'est-ce que moi j'en fais? On s'appuie sur ce que Jésus a fait pour nous, sur l'appel qu'il nous a adressé et sur notre dignité d'enfant de Dieu qu'il nous a accordé et sur les promesses qu'il a faites. Donc voyez, c'est pas l'exhortation morale. Ce que Jésus a fait pour moi, à quoi il m'a appelé? Je suis enfant de Dieu, j'ai la dignité d'enfant de Dieu, ambassadeur de Christ et Dieu m'a fait des promesses. Voilà ce qui motive mon exhortation à quelqu'un, à moi-même ou à quelqu'un. Et ça, c'est important. C'est pas tu dois, tu devrais, il faudrait, il y a qu'à, faut qu'on, etc. Non, non, non. Jésus a tout fait pour toi. Il t'a appelé à quelque chose de particulier. Il t'a donné la dignité d'enfant de Dieu, d'ambassadeur de Christ. Et il t'a fait des promesses. C'est dans ce contexte que je vais t'exhorter. Ah. C'est un petit peu plus difficile que de dire « il n'y a qu'à Faucon hein ». Et c'est pourtant ça la vérité pour un chrétien. C'est ça qui va nous motiver, rien d'autre. Alors, on va prendre un exemple. Je ne sais pas s'il est très bien choisi comme tous les exemples. Hein. Il est un petit peu défectueux, mais vous allez comprendre d'où je veux en venir. Parce que c'est quelquefois bien de voir, voyons en pratique maintenant, comment je fais ce qu'elle a dit, comment je fais en pratique. Alors, on a vu ce qu'il fallait pas faire. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire? Alors, je vais imaginer une dame, Gertrude Dupont-Dubois. Alors, elle est au chômage. Et, bonheur, elle a trouvé un boulot comme secrétaire dans une entreprise complètement malhonnête, elle le sait, qui exploite des travailleurs immigrés. On va prendre un exemple qu'on ne connaît pas dans notre environnement, pour être safe. Alors, il y a plusieurs façons de l'exhorter. Vous apprenez ça, vous la rencontrez dans le magasin ou dans la rue ou à l'église, quand il n'y a pas le confinement, et vous allez la voir en disant « Ah, mais moi, je ne ferais pas ça, hein. C'est honteux. » Écoute-moi, je suis chrétienne depuis plus longtemps que toi et je peux te dire que tu ne dois pas faire ça. » En tant que faisant partie des responsables de l'église, je te dis qu'il ne faut pas. Mais réfléchis, c'est immoral. Mais te laisse pas aller. Refuse. Et puis on peut dire aussi, la Bible dit que tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Même que Michel Dimanche, elle a cité le Lévitique, qu'on doit prendre soin de l'émigré. Oui. Est-ce que c'est ça, exhorter? Et malheureusement, je crains que souvent, c'est l'image qu'on a. Surtout si on a traîné dans les églises depuis notre enfance. Et alors, du coup, l'exhortation, oh, oh, pas pour moi. Hein. Moi, je me mêle pas de la vie des autres comme ça. Je peux leur donner des conseils à la gomme, etc. Eh ben non. Alors, comment faire? Si j'en crois ce que je viens de dire, c'est d'abord de dire, écoute, Gertrude, rappelle-toi ce que Jésus a fait dans ta vie. J'ai beaucoup aimé ce que David a dit ce matin parce que c'est tout à fait dans la même veine. Rappelle-toi que Jésus a donné sa vie pour toi. Rappelle-toi, il est mort pour t'accorder le pardon. Regarde, depuis des années, il marche avec toi. Regarde le nombre d'addictions, peut-être, hein, dont il t'a guéri. Il t'a donné une vie nouvelle, une nouvelle espérance. Il t'a sorti de la dépression. Regarde tout ce qu'il a fait pour toi. Puis il t'a appelé à le servir. Il y a un appel dans ta vie. tu es ambassadeur de Christ. Regarde le dernier boulot où tu étais. Tu as pu témoigner. Les gens ont été touchés par ton témoignage. Il y en a qui ont même prié avec toi. Rappelle-toi à quoi tu es appelé. Rappelle-toi que tu représentes Christ dans le monde, ambassadeur de Christ. Tu représentes Christ. Est-ce que Christ peut accepter une chose comme ça? Rappelle-toi aussi que Dieu t'a promis de ne jamais t'abandonner et de pourvoir à tous tes besoins. Alors, tu vois ce qu'il te reste à faire. Vous voyez, on n'est pas du tout dans le yaka. On rappelle les promesses. Je vous exhorte donc. Et là, ça passe tout seul. On se rappelle ce que Jésus a fait. Vous voyez la différence. L'exhortation, ce n'est pas faire la morale, mais s'appuyer sur ce que Jésus a fait dans une vie. Et ça, tout le monde peut le faire, ce n'est pas réservé aux responsables d'une église. Et combien de fois vous avez des conversations avec des amis, avec d'autres chrétiens qui vivent des moments difficiles. Et puis, notre instinct humain, ça va être peut-être de naturellement leur faire un peu la morale. Non, t'as pas fait ça, c'est pas possible. Repensons à ça. Ce que Jésus a fait pour toi, l'appel qu'il a sur ta vie, la dignité d'enfant de Dieu et les promesses. Rappelez-vous de ces quatre choses. Rappelons-nous, parce que moi, ça m'a beaucoup fait réfléchir. Romains 15, versets 14 à 16, dit ceci. Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadée que vous êtes plein de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables, par conséquent, de vous exhorter les uns les autres. Cependant, je vous écris afin que les non-juifs deviennent une offrande agréable étant consacrés par l'Esprit-Saint. Alors, un passage intéressant, on a sauté quelques petits bouts des versets pour se concentrer sur les choses qu'on va commenter. Pour s'exhorter les uns les autres, premièrement, il faut être rempli de bonnes dispositions. Vouloir le bien de l'autre. J'éviterai d'exhorter quelqu'un si je peux pas l'encaisser, si mes dispositions sont pas forcément favorables, que les raisons soient bonnes ou non. Voilà, si c'est à partir de dispositions malveillantes, par exemple, c'est pas la peine. Le deuxième point, c'est être rempli de toute connaissance du plan de Dieu. Ah, ça, c'est déjà peut-être un peu plus difficile, mais sans référer au plan de Dieu pour le salut et la sanctification, c'est-à-dire la mise à part. Connaissance du plan de Dieu pour le salut, et c'est ça qu'on va rappeler au début quand on exhorte. Et le deuxième point, c'est connaissance de l'âme humaine aussi, et c'est pour ça qu'on a fait la maison d'Élie. Il faut connaître un peu la personne à qui on s'adresse. Et pourquoi souvent dans les églises, on a été un peu découragé de l'exhortation mutuelle? Parce qu'il y en a qui vous foncent dessus, ils vous connaissent pas, et ils vous attribuent toutes sortes de choses que vous avez jamais pensées ou jamais faites. Parce qu'ils ont une image de vous, peut-être à cause d'une projection, et ils vous foncent dedans, sans connaître qui vous êtes, sans connaître votre cœur. Donc attention à ça. Donc, être rempli de bonnes dispositions, connaître le plan de Dieu, et puis la personne qu'on a en face de soi. Connaître aussi la parole de Dieu, pour pas lui faire dire n'importe quoi. Ça, c'est terrible quand les gens vous prennent des versets dans la Bible et vous les balancent à la figure sans se rendre compte que c'est complètement hors contexte. Je peux pas m'empêcher de me rappeler de cette... Ma sœur avait une amie qui était mariée avec un monsieur un peu spécial et il venait nous rendre visite de temps en temps. Et comme je vous l'ai souvent dit, dans ma famille, on aimait bien rire. Et bon, on avait souvent des petites plaisanteries. Pas de moqueries, mais des plaisanteries juste pour alléger l'atmosphère. Et ce monsieur avait l'habitude de nous citer très gravement, à chaque fois qu'il nous voyait rire d'une petite plaisanterie, il nous citait toujours ce verset d'Éphésiens 5:4. Les plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Il avait coupé le verset, hein. Il donnait que cette partie-là. Et ben, voyez, ce genre de choses, c'est pas de l'exhortation. Bon, nous, ça nous faisait rire, parce que tu es bien gentil. Mais... Voilà. Voyez, on peut prendre un verset et puis le balancer comme ça, sans se rendre compte que ça n'a rien à voir. Enfin. Donc, connaître aussi la parole de Dieu, connaître la personne, connaître le plan de Dieu, être rempli de bonnes dispositions et être conscient que le but de l'exhortation, c'est que chacun soit une offrande agréable à Dieu. C'est pas que la personne soit ce que je veux qu'elle soit. Ah, moi, je voudrais bien qu'un tel, il soit comme ci, comme ça, plus ceci, moins cela. Et puis un tel, il faudrait qu'il soit plus comme ci. Non. Être conscient que le but de l'exhortation, c'est que chacun soit une offrande agréable à Dieu. Quelqu'un qui soit consacré par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, vous savez, consacré, c'est mis à part, consacré à, sanctifié. Ne pas pousser l'autre à être comme moi. Ou ce que j'imagine être, parce que parfois... Mais chercher à ce que cette personne rentre dans le plan de Dieu pour sa vie, pour qu'elle soit plus conforme à Jésus-Christ. Vous voyez que c'est, le regard n'est pas le même. Colossiens 3,16 dit ceci, « Que la parole de Christ habite en vous, dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous, oh là, les uns les autres, en toute sagesse, par des psaumes, des cantiques spirituels, sous l'inspiration de la grâce. » Ce qu'on a fait ce matin, hein, c'était une bonne exhortation, les cantiques ont été choisis ce matin. « Chantez à Dieu de tout votre cœur, et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. » Donc avant de parler de l'exhortation mutuelle, l'apôtre demande que la parole de Christ habite en nous dans toute sa richesse. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous révèle le plan de Dieu pour notre vie, celle de mon frère, de ma communauté et pour toutes nos relations les uns avec les autres. C'est elle qui met le doigt sur ce qui ne va pas. Rappelez-vous, la parole de Dieu est un miroir. Quand on la lit, on peut voir où on en est. Pour exhorter valablement, il faut que la parole de Dieu habite en nous. Ah. Et le mot habiter, là, c'est vraiment qu'elle soit à la maison, chez nous et en nous. Que nous la connaissions. Non pas comme un bouquin, mais comme une personne qui vit à côté de nous sans cesse. Et ça, c'est important. C'est important surtout dans cette période où les gens lisent de moins en moins la Bible, même les évangéliques. J'ai reconnu, c'est dommage, parce que du coup, on va extraire dans nos souvenirs des versets. Ils peuvent être hors contexte. Ils ont été entendus par l'homme qu'a vu l'homme, qu'a vu l'homme, qu'a vu l'ours. Et du coup... on va peut-être mal les utiliser. Donc, il faut que la parole de Dieu habite en nous. Et pas seulement ses promesses, pas seulement le psaume 23. Et là, je voudrais m'arrêter un petit peu là-dessus parce que c'est quelque chose que j'ai constaté. Dans certains milieux d'église, il devient politiquement incorrect de citer des versets bibliques. Surtout quand on souhaite exhorter quelqu'un. Et on va peut-être même plus facilement aller vers la moralisation. Parce que citer des versets bibliques. Alors la sagesse humaine qui est déclinée dans les médias ou sur les réseaux sociaux semble beaucoup plus adaptée. C'est plus souple, c'est plus politiquement correct. Et oui, c'est vrai. Parce que l'évangile est une folie pour ceux qui périssent. Et Dieu promet de confondre la sagesse des hommes. Et c'est intéressant d'étudier cette sagesse humaine d'ailleurs. C'est un peu ce qu'a fait Luc Bussière. C'est intéressant pour mesurer l'écart avec la parole de Dieu. C'est intéressant de voir où elle va, cette sagesse humaine. Ah, moi, j'aime bien écouter les TEDx ou des choses comme ça. C'est passionnant de voir comment les gens s'éloignent de la sagesse de Dieu tout en paraissant extrêmement sages. Alors, moi, je comprends les gens qui sont hostiles à la citation de versets bibliques. Ils ont de très bons arguments. Par exemple, qui n'a jamais été confronté à quelqu'un qui vous assomme de versets à tort et à travers? Combien de non-chrétiens ont été complètement dégoûtés de la Bible parce qu'ils ont été évangélisés, ce que j'appelle à la mitraillette, sans aucun égard? Vous savez, c'est même allé très loin. Avec Olivier, on a dû changer de kiné parce que des chrétiens avaient tellement évangélisé notre kiné à coups de versets bibliques qu'on a dû en changer. Il est devenu hostile. Même envers ce pauvre Olivier qui, à l'époque, avait 14 ou 15 ans. Quand même, attention, je comprends qu'on soit hostile à citer des versets bibliques quand on a vécu ça. Combien de gens citent des versets complètement hors contexte, je l'ai déjà dit, pour faire dire à la Bible des choses qu'elle ne dit pas. Et combien de fois est-ce que nous-mêmes, on a cité un verset alors que Dieu nous demandait d'écouter la personne, sa peine, avec compassion? Comment? Parce qu'on est chrétien, on va citer un verset biblique. Dieu nous demandait seulement d'écouter et d'avoir de la compassion. pleurer avec ceux qui pleurent. Et combien de fois, nous aussi, on a subi ce traitement alors que nos cœurs étaient dans la détresse. T'en fais pas, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu es au plus profond de la détresse, tu es en larmes, t'en peux plus. Et on te balance ce verset qui est très vrai, qui est très juste. Mais c'est peut-être pas tout à fait le moment. Que la Bible dit aussi de pleurer avec ceux qui pleurent. Alors, citer des versets pour paraître plus spirituel, pour impressionner la galerie ou pour se débarrasser d'un problème, pour faire la leçon, c'est pas ça exhorter. Et si c'est cette image qui vous vient à l'esprit quand je dis « exhortez-vous les uns les autres », arrêtez là, non, non. Et voilà pourquoi ce sont des bons arguments, à mon avis, pour les jeunes générations qui n'osent plus citer une parole de la Bible. Et aussi pour certains plus âgés, parce qu'ils n'osent pas paraître rétro, has-been ou old school ou je ne sais quoi. Et pourtant, le Seigneur peut tellement utiliser un verset donné au bon moment. Le verset que vous venez de lire le matin, ou celui qui vous a touché le cœur au cours d'une épreuve dans le passé, ou l'histoire que vous avez lue il y a longtemps et qui peut peut-être aider la personne qui vous demande de l'aide. Exhorter avec des versets bibliques, c'est faisable. Combien de fois des amis m'ont téléphoné en me donnant un verset qui collait parfaitement à la situation. Et oui, ça arrive souvent, ça. Je me souviens avoir eu des périodes où j'étais vraiment triste et soucieuse. Et je me souviens d'une occasion où Marilyn Mitton m'avait téléphoné en me disant « Je ne sais pas pourquoi je te téléphone, mais j'avais à cœur de te donner ce verset. Ah, » ah, pile poil. Et ce n'est pas la seule. C'est arrivé très souvent de la part de plusieurs d'entre vous. Alors, ce serait dommage de s'abstenir parce que ça fait vieillot. N'hésitons pas à aller à contre-courant. Même si c'est pas à la mode, même si c'est pas politiquement correct de citer des versets bibliques, on se laisse pas influencer par le politiquement correct. Si on a un verset sur le cœur pour quelqu'un, on le donne. Et je crois que c'est important de savoir aller à contre-courant. Il y a des modes comme ça. Alors, il y a eu une mode dans le passé où il fallait absolument citer des versets bibliques et assommer les gens. Maintenant, vous savez, c'est le pendule. On passe complètement dans l'autre sens. Oh, pas citer de versets bibliques. Faisons ce que le Seigneur nous demande. Et s'il nous met à cœur un verset pour quelqu'un, on lui donne. On lui donne avec humilité, évidemment. Vous savez, quand j'étais au GBU, je citais souvent ce verset avec nos amis en disant « Ouais, le Seigneur m'a donné ce ministère, reprends, censure, exhorte !» Dans cet esprit-là, hein, ça peut pas marcher. Non, mais si Dieu nous donne quelque chose pour exhorter quelqu'un de la manière dont on a dit tout à l'heure, eh bien, faisons-le. Alors, il y a un autre verset qui dit « Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres. » Colossiens 3:16. Alors, c'est intéressant parce que « instruisez-vous », ça s'adresse davantage à l'intelligence. Et oui, l'intelligence, Dieu l'a créée et on en a besoin. Et on est appelé à s'en servir. Dans le Seigneur, évidemment. Et puis, « exhorter », ça touche davantage la volonté. C'est pourquoi l'apôtre Paul fait remarquer, dans ce sens-là, « instruisez et exhorter », parce que c'est nécessaire que l'exhortation soit précédée d'un enseignement approprié, celui qui convient. Par exemple, pour exhorter quelqu'un à renoncer à un péché précis, je dois lui rappeler la volonté de Dieu, c'est votre sanctification. Relire les péchés qui sont mentionnés dans les épîtres et comment on peut être délivré de ces péchés, Romains 6, ça c'est l'instruction. Je fais appel à l'intelligence de la personne en relisant la parole de Dieu et puis après je peux exhorter, je fais un pas de plus. Je vais presser instamment la personne de renoncer à sa désobéissance. Mais à côté de ça, je vais rester à ses côtés. Je vais lutter jusqu'à la victoire, condition qu'elle le veuille bien, évidemment. Prier avec elle pour que le Saint-Esprit, le divin paraclète, justement, purifie et donne la force de résister. Donc voilà, exhorter, c'est pas balancer des choses à la tête des gens. Voyez que c'est un processus, c'est une attitude de cœur, c'est une obéissance aussi à la parole de Dieu. Et puis, il y a une partie que j'aime beaucoup aussi. L'apôtre dit « en toute sagesse ». Et oui, c'est souvent le manque de sagesse qui a fait qu'on a utilisé des versets au mauvais moment ou qu'on a exhorté de la mauvaise manière avec des formules toutes prêtes et pour des mauvaises raisons, parce qu'on se sent supérieur ou parce qu'on est vraiment dans le légalisme ou dans le jugement. La sagesse, c'est justement ça qui va nous aider. Demandez la sagesse de Dieu. Rappelez-vous les amis de Job. Ah, c'était des exhortateurs, ceux-là. Et Job 16:2, on parle d'exhortateurs pénibles en certaines traductions. Alors, ne soyons pas des... En anglais, d'ailleurs, c'est une expression, hein, les amis de Job. Ça veut dire des gens qui vous barbent avec des trucs qui sont pas justes. Et des gens qui pensent que l'épreuve est toujours le fruit d'un péché. Hein? Job 42:7, Dieu va dire à ces gens-là, « Vous n'avez pas parlé de moi avec droiture. » Ou alors, il y a plusieurs traductions, « Vous n'avez pas parlé de moi avec rectitude ou correctement. » Alors attention, demandons la sagesse à Dieu, Jacques 1, verset 5. Les exhortateurs pénibles ne demandent pas cette sagesse parce qu'ils croient tout savoir. Mais donc, restons, quand on exhorte quelqu'un, restons dans l'humilité. Et cherchons à dire ce que Dieu veut dire et pas ce que nous, on veut dire. Soyons pas des consolateurs de Job que Dieu a dû corriger et reprendre vertement. Vous n'avez pas parlé de moi avec droiture. Mais c'est pas une raison pour refuser d'encourager, refuser d'exhorter. Oh, moi, je me mêle pas des affaires des autres. S'il veut pécher, c'est son problème. Eh ben non, c'est pas la communauté. Et c'est vrai qu'on serait tenté, surtout si on a été bien élevé et puis on n'aime pas se mêler des affaires des autres. Bah tant pis, hein, il fait ses choix, il connaît la Bible. Moi, il y a même des pasteurs qui m'ont parlé de ça une fois, hein, me disant, moi, j'annonce la parole de Dieu. Après, ils font ce qu'ils veulent. Oui. Et non, la communauté, les uns les autres, 100 fois dans la parole de Dieu exhortée, 30 fois exhortation. On peut y échapper ? Et ça demande beaucoup de sagesse, ça demande de la prière, ça demande de bien connaître la Bible, ça demande de bien connaître la volonté de Dieu. Alors après, bien sûr, il y a par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Bien sûr, c'est ce qu'on a fait ce matin. C'est ce que David a fait ce matin. Il nous a exhortés dans le choix des chants. Et c'était très bien. Et Kuhn dit ceci, c'est un peu inattendu, mais quand on ne trouve pas les mots, lire un psaume avec quelqu'un ou chanter un cantique avec quelqu'un, ça peut changer les choses. Alors moi, je chante peut-être pas suffisamment bien, mais je sais que ma sœur fait ça très souvent. Parce qu'elle a souvent des gens qui viennent la voir avec des problèmes, des soucis. Et bien, quelquefois, on ne trouve pas les mots. Devant un deuil, devant une épreuve épouvantable, qu'est-ce que vous voulez dire aux gens? Bien sûr, ce n'est pas le genre qui va dire « t'en fais pas, toute chose concourt au bien de ce qui est mieux ». Donc, quoi faire? Eh bien, elle me disait que parfois, elle prend un vieux cantique qui va parler au cœur de cette personne. Et elle a fait ça souvent. Et puis, elle va le chanter avec la personne qui vient le voir. Bon, elle chante bien, ma sœur, évidemment, elle peut se le permettre. Moi, ça aurait peut-être un petit peu plus de mal. Mais bon, chanter un cantique ensemble, ça peut changer des choses. Ça peut ouvrir le cœur. Parce que certains cantiques comportent vraiment des paroles d'exhortation, d'encouragement, de consolation. Et ils seront plus efficaces qu'un sermon. Chanter va aider à fixer les regards sur Jésus. L'adorer nous transporte dans la présence du Père qui est capable, lui, de nous toucher et de nous guérir. Donc, vous voyez qu'exhorter, c'est autre chose que de faire la morale, que de faire un sermon. 1 Thessaloniciens 5:11 dit « C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres. » L'apôtre, juste avant, vient de parler de la grande espérance de l'Église, qui est le retour de Jésus. Il ne surprendra pas normalement les enfants de Dieu. On est supposé être ces vierges sages qui ont les lampes remplies d'huile. Si on ne dort pas, si on veille. Et je pense que les choses qu'on vit en ce moment, pour certaines personnes, ça va les pousser à croire à un complot mondial, à voir tout un tas de choses qui sont ou qui ne sont pas. Mais je pense que nous, chrétiens, on a une autre dimension. C'est le moment de veiller. C'est pas le moment de dormir ou d'échafauder des théories du complot, même s'il y a peut-être, il y a de toute façon le complot de l'ennemi. Hein. Lui, il complote depuis longtemps pour récupérer et casser l'Église. Ça, c'est sûr. Et c'est le moment de veiller, de mettre de l'huile dans nos lampes, de prier les uns pour les autres, de s'exhorter les uns les autres, de s'encourager les uns les autres, de tous les uns les autres qu'on passe en revue en ce moment. C'est le moment ou jamais. D'ailleurs, Dieu nous a donné des moyens techniques qui marchent quand ils veulent, mais qui marchent de temps en temps et qui nous permettent de contacter les autres, de faire des réunions Zoom, de prier sur Zoom, etc. Pourquoi pas ? Parce que Dieu sait très bien qu'on a besoin de se les uns les autres. Et si l'ennemi cherche à nous en priver, Dieu nous donne des moyens de le retrouver. Et je pensais ce matin au sport d'équipe. Je sais pas pourquoi je pensais à ça ce matin. Les sports d'équipe, vous savez, où par exemple en alpinisme, vous avez une cordée. Et moi, j'aime bien regarder avec André, on aime bien regarder des documentaires et vous voyez souvent dans les cordées comment ils communiquent pour dire non, mets pas ton truc là, mets plutôt ton pied ici, etc. Ben, ils s'exhortent, hein. Ils ont intérêt, hein, parce que s'il y en a un qui dévisse, ça peut être grave, suivant la paroi. Et il y a ce côté exhortation. Ou bien ceux qui font de la voile en équipe. À OGBU, on avait des camps de voile. Et nos amis étaient des grands amateurs des camps de voile. Mais c'est vrai qu'ils apprenaient beaucoup de choses aux camps de voile, nos étudiants. Parce que, il faut travailler en équipe. T'as trop tiré la voile. T'as fait ceci. Attention! Et on regarde la météo et on se prépare. Et il y a tout un travail d'équipe où on s'exhorte, forcément. Regardez les sports d'équipe. Alors, moi, je m'y connais absolument pas, hein, le foot, le rugby et tout ça. Mais il y a des moments d'exhortation hein, dans les vestiaires. Il me semble avoir vu ça dans des films hein, où, je ne sais plus qui, l'entraîneur, j'imagine, hein, qui est, oh, vous allez y arriver, on est les meilleurs, et puis voilà, on aura la victoire, et puis voilà. Mais toi, fais attention à ça, et toi, fais attention à ça. Bon, c'est une façon de faire, mais vous voyez, il y a quand même ce côté. Ça fait partie. Et je crois qu'en tant que chrétien, on pourrait, c'est une image qui vaut ce qu'elle vaut, mais il y a quand même un petit peu ce côté sport d'équipe, parce qu'on veut la victoire sur nous-mêmes, la victoire sur tout ce que les pièges que l'ennemi nous tend, la victoire sur l'esprit du monde qui n'est pas facile. Alors, édifions-nous les uns les autres. Paul sait qu'il est presque impossible de rester éveillé seul parmi des gens qui dorment. C'est pourquoi il va demander aux chrétiens d'être vigilants. C'est-à-dire de veiller, hein, ça que ça veut dire. Frère, attention, ne t'endors pas, le Seigneur va revenir. Et en ce moment, ne nous endormons pas devant les problèmes qui sont autour de nous. Ne nous endormons pas. Ne nous laissons pas endormir par toutes sortes de théories du complot. Ne nous laissons pas endormir par « ça ira mieux demain » ou bien « non, non, c'est juste un accident de passage ». Le Seigneur va bientôt revenir. Ne sait ni le jour ni l'heure, mais c'est clair. Les choses se précisent. Et vous savez ce que Jésus avait dit, en quelque sorte. Oh, vous savez bien prédire la météo, hein. Ouais, c'était quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Quand le ciel, vous voyez que le ciel est rouge, vous dites qu'il fera beau demain. Autrement dit, c'était ça, hein, la météo de l'époque. Moi, je l'utilise encore et ça marche. Hein. Et quand le ciel est rouge, effectivement, le lendemain, on a toutes les chances d'avoir du beau temps. Et le rouge le soir. Et Jésus dit, vous savez faire ça, mais vous voyez pas les signes des temps. En plus, eux, ils vivaient des signes des temps incroyables. Hein. Le Messie venait d'arriver, on entrait dans une nouvelle ère, nouvelle alliance, formidable. Le Saint-Esprit était là, le royaume de Dieu était arrivé au milieu des gens. On sait, alors attention aux signes des temps. Alors, n'entrons pas forcément dans des recherches très précises, mais il est clair que c'est pas le moment de dormir. C'est le moment de se souder les uns les autres. C'est le moment de veiller les uns sur les autres. Ça, on va en parler la fois prochaine aussi. C'est le moment de prier les uns pour les autres, de s'exhorter les uns les autres, mais de la bonne manière, comme on l'a vu ce matin. Et que on soit en bénédiction les uns pour les autres. En bénédiction. S'encourager à veiller et à ne pas dormir. Et c'est vrai, je sais pas si vous êtes comme moi, mais quand on fait des longs voyages en voiture, moi, j'hésite toujours à m'endormir parce que je me dis, si André m'entend ronfler là, tranquille, et surtout quand on avait les trois enfants qui dormaient au fond, ça leur arrivait. Une fois qu'ils avaient fini de se battre. Et je me disais, si moi je m'endors et qu'il entend les trois enfants qui dorment, mais c'est terrible, hein, c'est contagieux. Hein. Eh bien, ne soyons pas contagieux, au contraire, veillons et prions. Exhortons-nous les uns les autres. les temps sont proches. Peut-être que beaucoup plus proches qu'on l'imagine, j'en sais rien. Mais vous savez, ce genre de pandémie, ça parle quand même, hein, un petit peu. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu es le chemin, la vérité, la vie. Et je t'implore pour moi-même et pour chacun d'entre nous que nous puissions avoir cette sagesse pour nous exhorter les uns les autres de la bonne manière. En pensant à ton appel, en pensant ce que tu as fait pour nous, en pensant à la dignité d'enfant de Dieu, d'ambassadeur de Christ que tu nous as accordé, et en pensant aussi à tes promesses, que nous soyons des exhortateurs selon ton cœur et que nous puissions être en bénédiction, réveiller ceux qui s'endorment et nous-mêmes rester éveillés afin que, Seigneur, le jour où tu reviendras, nous soyons prêts, que nos lampes soient allumées, que nous ne manquions pas d'huile, que nous soyons prêts pour ton retour. Merci Seigneur, parce que on veut dire avec l'apôtre Maranatha, tu viens bientôt. Amen.